Showtime 2017. Swing Time, une émission présentée et proposée aujourd'hui par Claude Alain Christophe et Alain Charbonnier. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Ben, oui, parce qu'aujourd'hui, Martine n'est pas là et je la remplace aux manettes. J'essaie de m'amuser, de vous débrouiller avec tout.
Et nous, on a eu peur parce qu'on croyait, comme le petit chaperon rouge qui venait voir sa mère grand, la voix avait changé.
On avait cru que c'était Martine qui avait mué.
Alors, quel est le programme aujourd'hui, Alain?
Eh bien, on va observer la fin d'une légende puisqu'on va rendre hommage à Fats Domino qui nous a quittés le 24 octobre dernier.
Et Claude Alain, qu'est-ce que tu vas présenter?
Et moi, je vais présenter le dernier concert de Dico's of Swing.
Ah. Eh bien, toi, Alain.
Eh bien, comme je venais de le dire, le 24 octobre dernier, une légende du rhythm and blues, du rock and roll et du jazz, évidemment, a disparu. C'est quelqu'un qui a vécu presque tout le temps à la Nouvelle-Orléans. Il a même fait construire récemment un tout nouveau manoir où le rose bonbon dominait largement, au sud du French Quarter, un peu plus haut que le Mississippi, dans une boucle de ce fleuve, à Harvey exactement, puisqu'après l'ouragan Katrina d'août 2005, qui a fait près de 2000 morts, il avait perdu sa maison et lui en a réchappé quasi par miracle. On l'avait cru mort à l'époque. Mais non.
Exact. Oui.
Voilà, mais il est mort en 2017. Et ce chanteur et pianiste qui a bercé pour quelques baby-boomers que nous sommes les uns les autres, pas tous, parce qu'on a de jeunes auditeurs à Swing FM, eh bien, il a bercé notre adolescence, nos surprises parties, comme on disait alors. Et donc, chacun a reconnu, c'était Fats Domino dont je parlais et je l'avais annoncé dans le titre. Et Swing FM se devait de rendre hommage à cet artiste talentueux, jovial, en essayant de retrouver dans son art ce qui vient du jazz et du blues et pas se contenter de reprendre les grands succès que chacun connaît, qui s'éloignent parfois un peu de notre musique. Donc, on va bien écouter une émission de jazz. On est d'accord, Claude Alain?
J'espère.
Voilà. Non, non, tu ne seras pas déçu. Non, non. Je vais pas t'affoler aujourd'hui. Rassure-toi. Eh bien, on va commencer par les tout premiers enregistrements de Fats Domino qui ont été effectués, bien sûr, à la Nouvelle-Orléans. Et pour la firme essentielle de sa carrière, qui est Imperial Records, le premier titre est une évocation de la ville de Detroit, la Motor City. Donc là, on est dans le nord des États-Unis. C'est une ville où les Noirs étaient en force, puisqu'ils avaient travaillé dans les usines automobiles, notamment. Et Fats Domino regardait peut-être les voitures, mais surtout les Pretty Girls. Dans le premier morceau, on verra qu'il s'intéressait aux jolies nanas qu'il y avait à Detroit. Et on va entendre un blues, tout comme le second morceau, puisqu'on va écouter deux morceaux en suivant. Ces deux blues qui sont enregistrés en 1949. Le premier donc évoque la ville de Detroit, c'est Detroit City Blues. Le deuxième, ça s'appelle Hide Away. C'est le nom du club où jouait Fats en 1949. Et ce sont des arrangements qu'il a co-signés avec son trompettiste, qui était aussi son mentor, un directeur musical de Imperial, qui était Dave Bartholomew. Donc on écoute ces deux titres enregistrés, bien sûr à la Nouvelle-Orléans, chez Imperial, en octobre 1949. In this world, Eh bien, on aperçut tout de même que Fats Domino était à la frontière du rhythm and blues, du rock and roll, du blues.
Oui, mais enfin, non, le rock and roll, le vrai rock and roll, c'est à l'origine, c'est le blues, quoi.
C'est du blues. Ah voilà. Bon, on était un peu.
Le rhythm and blues, c'est pas un style. En définitive, c'est un terme qu'on employait pour vendre les disques.
Voilà, tout à fait.
Alors,
voilà.
Donc, c'est du blues.
C'est du blues, bien sûr. En fait, c'est le blues. Bon. Et Fats Domino était bien là-dedans. On est bien d'accord. Et c'est le blues qui a bercé la musique de Fats Domino.
Absolument.
Comme de tous les jazzmen. Et on va voir que Fats Domino s'approprie également des thèmes classiques du jazz traditionnel, si j'ose dire, puisqu'on va écouter maintenant Careless Love. C'est toujours un disque impérial, enregistré toujours à la Nouvelle-Orléans. Et on est en septembre 1949. D'entendre Careless Love, qu'on aurait pu appeler Loveless Love, c'est le même titre dans les paroles, enfin les deux. Et une deuxième précision que je voudrais donner, c'est que le trompettiste était bien sûr Dave Bartholomew, annoncé au départ. Alors, dans le titre suivant, outre le tempo slow rock cher à Fats Domino, on va comprendre toute l'importance que Fats accorde au sax dans l'accompagnement. On entend aussi le jeu du guitariste Harrison Verrett, qui n'est pas très connu, mais qui était par contre le beau-frère de Fats Domino. Au moins pour Fats Domino, il était très connu. Et c'est ce fameux Harrison Verrett qui a montré ses premiers accords au piano à Fats. Le morceau suivant, puisqu'on va écouter deux morceaux enchaînés, on va entendre un des saxophonistes qui joue en solo dans l'orchestre de Fats. Il s'agit de Wendell Duconjé, ou Duconjé, c'est un créole, qui joue de l'alto, donc successivement. Cheating et Dreaming, toujours des disques de marque impériale, je n'ai pas dit impériaux, les disques de marque impériale, toujours enregistrés à la Nouvelle-Orléans, et on est en 1952.
Baby, I cannot stand the thing you do.
plus qu'un chanteur à voix enjôleuse, Fats Domino était aussi un très bon pianiste. Et on va en avoir une preuve tout de suite avec ce traditionnel qui transforme en bogey. Il s'agit de Swanee River, enregistré en février 1953. Façon face domino.
Et on oui, voilà. Ça a un côté vraiment un peu répétitif, mais quand même, enfin, il n'avait pas beaucoup d'inspiration,
non,
il semble.
Voilà, voilà.
Mais par contre, il swingait, ça, incontestablement. Il déménageait.
Hein. Il s'est swingé, voilà. Alors, on va justement continuer avec face domino, pianiste. Et encore un titre, on peut dire un titre qui balance bien et qu'il balance bien, c'est pareil. Et on va profiter de ce morceau qui s'intitule Barrel House, qui n'est pas le plus connu, hein, mais j'essaye de montrer et de faire écouter des titres moins connus. Puis là, la maison des barriques, ça vaut le coup tout de même. Hein. Donc on va prendre une petite panne de Barrel House.
Thank you.
le morceau était un peu chunté, mais il se termine comme ça. C'est pas nous qui l'avons
mais on
coupé.
Se croirait vraiment dans un barrel house.
Voilà, tout à fait. Voilà.
Il mérite bien son titre.
Voilà, c'est un bon titre. C'est peut-être le meilleur de l'émission.
Ah oui, excellent.
Oui, voilà, avec ouais. Detroit Blues au départ, voilà. C'est un très bon titre. Alors, on va continuer avec Fats Domino. Je signalais tout à l'heure qu'il s'était marié. Il a toujours été avec sa femme légitime. Je n'ai pas dit fidèle. Il est toujours resté avec sa femme légitime, qui s'appelait Rosemary, qu'il a épousée en 1947. Donc, il avait 19 ans. Il ne l'a jamais quittée. Évidemment, il a tout de même fait la noce avec plein d'autres femmes sans aucun problème. Et il avait un penchant très fort pour le beau sexe et il l'a étalé dans beaucoup de ses titres. Il y en a un qui est fameux, donc j'ai choisi celui-ci, c'est « My Girl Josephine ». Josephine, voilà. Hein. Hey, Josephine, comment vas-tu? Est-ce que tu te souviens de moi, baby? Voilà, c'est ça l'histoire. Et donc, c'est un disque toujours forcément impérial, toujours enregistré à Nouvelle-Orléans.
Forcément, pour une Joséphine, c'est forcément impérial.
Voilà, c'était la Joséphine impériale. Voilà, voilà. Claude Alain, le Napoléon du jazz. Bravo, Claude Alain. Donc, on écoute My Girl Josephine, enregistré en 1960. Eh bien, nous allons terminer cet hommage à Fats Domino par la reprise lors d'un concert en Allemagne en 1973, là qu'on a sauté quelques années. Et on va écouter le tout premier succès de Fats Domino, qui est une sorte d'autoportrait enregistré à l'origine lors de sa première séance d'enregistrement, donc en 1949. Et il s'agit bien sûr de The Fat Man, l'homme un peu gras. Il ne l'avait pas très bien pris au départ, et puis après il l'a bien pris parce que ça lui a servi de nom de scène.
Ça lui a réussi, oui.
Et ça lui a réussi, voilà.
C'est un titre phare pour Fats Domino.
Voilà. Et en plus, ça faisait référence à Fats Waller.
Oui, et puis
ça allait bien.
C'était son surnom, après tout.
Oui, c'était pas faux non plus. C'était pas faux non plus. Donc, on écoute The Fat Man qui est enregistré live, probablement, je suppose, c'est en Hambourg, c'est dans sa tournée en Allemagne de 1973. Donc, voici The Fat Man.
Right now! I'm gonna do the first record that I recorded. I recorded my first record in 1949, and it's the way it goes.
Donc c'était le Fat Man, donc, pour bien conclure sur Phase Domino. Alors ce morceau à l'origine, c'était un blues évidemment, hein, donc ça boucle bien la boucle que nous avions commencé en début d'émission. Et c'est un blues que Fats et Dave Bartholomew, donc son mentor, son directeur musical, aussi de chez Imperial, ont totalement transformé. Et à quoi tient un succès, je vous le demande. Hein, voilà. Alors, on peut constater, pour conclure sur Fats, un trait caractéristique, c'est la fidélité. Ce garçon était un homme fidèle. Et je vais le prouver, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure. Il était fidèle à son répertoire qu'il a conservé toute sa carrière, au risque d'être un peu rengaine à la longue, hein, on est d'accord. Il était fidèle à son orchestre qu'il a très peu modifié pendant plus de 60 ans, malgré quelques brouilles, quelques désaccords, notamment avec Dave Bartholomew. Il a été fidèle à sa marque de disque Imperial, dans laquelle il est resté de 49 à 64, donc 15 ans tout de même. Il a même été fidèle à sa femme, Rosemary, puisqu'il est resté avec elle 70 ans. Et ils ont eu ensemble 8 enfants. Alors, le prénom de chacun des enfants commence par A, évidemment. Phase Domino, je ne l'ai pas dit, il se prénommait Antoine. Donc, évidemment, le A, c'était le A d'Antoine pour continuer la génération des Domino, qui était son vrai nom, lui, par contre. Et malgré son goût prononcé pour les jolies femmes, eh bien, Rosemary a toujours pardonné à Fats. Et je voudrais conclure avec Blaise Pascal, carrément, le cœur a ses raisons que la raison ignore.
Bravo, bravo, bravo. On voit le haut, hein, décidément.
On voit, qu'il alors, était, moi, on voit vous, quand même qu'il était professeur dans un ancien temps.
Oh, pas si ancien que ça, quand même.
Non.
Alors, moi, je vais, si vous voulez, pour compléter ça, je vais vous raconter une anecdote qui m'a été racontée par Pierre Dumas. Pierre Dumas, c'est un membre du Yacht Club depuis fort longtemps. Et ça va sûrement lui faire plaisir d'entendre cette émission parce que c'est un fan de Fats Domino. Et il m'a raconté qu'un jour, il a vu Fats Domino sur scène. Et Fats Domino, qui était vraiment une bête de scène, il avait un truc qui amusait beaucoup le public. Il poussait son piano à queue avec son ventre.
Avec le ventre.
Le Fat Man, il pouvait se permettre ça. Hein. Et Pierre Dumas a vu ça un jour sur scène. Le pied de la queue du piano s'est pris dans un câble et le pied s'est décroché et le piano s'est affalé sur la scène.
Chute de piano.
C'était vraiment un cas. Hein,
ça pouvait arriver. Ouais.
Bon, eh bien, on va changer un petit peu, même tout à fait, parce que on va passer à une musique un peu plus, disons, raffiné, si tu permets.
Oui. Plus moderne. Plus, voilà. Oui. Contemporaine. Plus contemporaine. Du jazz contemporain par voilà. Claude Alain.
Bon. Alors, on va parler maintenant d'un concert d'Echoes of Swing, le dernier concert d'Echoes of Swing. Echoes of Swing, c'est une formation que vous connaissez bien, enfin que nous connaissons bien à Limoges, hein, puisque nous l'avons fait venir deux fois. La première fois, c'était en 2009. Et la deuxième fois, c'était le 20 février 2015. Et c'est ce concert que nous allons écouter. Et je signale d'ailleurs que c'est certainement le dernier concert auquel Jean-Marie Masse a assisté.
Oui, je me souviens de ça, oui. Ouais.
Et
il avait d'ailleurs acheté leur disque, je me souviens. Je vois en train Jean-Marie Masse achetant le disque des Echoes of Swing, le dernier, Blue Paper.
Alors, cette formation, il n'y a que quatre musiciens, mais alors dis donc, quatre musiciens. Hein. Ah. Alors, il y a d'abord Chris Hopkins, qui est un Américain qui joue du saxo alto dans la formation, bien qu'il soit également un bon pianiste. Et surtout, c'est un excellent arrangeur. Je pense que c'est sa principale qualité à Chris Hopkins. C'est vraiment, il y a plusieurs arrangements qu'on va entendre de lui qui sont vraiment remarquables. Il y a Colin Lawson, pardon, qui est un trompettiste anglais qui joue dans le style de Charlie Shavers, ce qui va parfaitement bien à cette formation, qui joue souvent dans le style de la formation
Kirby.
De John Kirby. Et vraiment, il est épatant dans ce style-là. Bien que ce soir-là, il était un peu enrhumé, mais enfin, ça ne se sentait pas trop.
Non, ça passait.
Et puis, il y a Bernd Klotzky. Alors ça, c'est vraiment le... Bon, enfin, pour moi, c'est sans doute le plus grand pianiste actuel. Il y en a beaucoup d'autres que j'aime, mais moi, j'ai un faible pour Bernd. Et puis, il y a un batteur qui, est, pour moi aussi, a été une révélation, parce que Oliver Meves, je ne sais pas comment...
Meves, ouais, il est allemand. C'est Meves en allemand.
C'est Meves.
Oui. Bon, si on dit Mio, ça sera anglais, oui.
Oui, comme je n'ai pas fait d'allemand, moi, je ne sais pas trop prononcer ça.
Meves.
Allez. Alors, Olivier Meves, c'est un batteur que je trouve remarquable.
Absolument.
C'est même peut-être un des meilleurs batteurs actuels. Mm-hmm. Et alors, on va les entendre d'abord dans un thème Nouvelle-Orléans qui a été arrangé dans le style de John Kirby, par Chris Hopkins. On entend plusieurs solos et notamment, on entend Colinet Dawson qui joue tout à fait dans le style de Shevers. Et on entend aussi, alors c'est amusant parce qu'on n'est pas habitué à entendre Bernd Lossky dans ce style-là. Et son style, son solo dans ce morceau-là me fait penser à Billy Kyle, le pianiste de la formation de John Kirby. Extraordinaire. Il y a une virtuosité non seulement individuelle mais collective dans cette formation qui est remarquable. Ah, oui. C'est ça qui fait penser à John Kirby.
Et ils ont du mérite parce que John Kirby était contrebassiste et il n'y a pas de contrebasse. Là.
Oui, mais souvent.
Oui, mais c'est l'esprit. C'est vrai voilà, que c'est l'esprit à fond de John Kirby.
Et vous avez remarqué que Bernd Lossky fait souvent la pompe.
Oui.
Parce que justement, pour remplacer le jeu de contrebasse.
Voilà, tout à fait. Et il rappelle Billy Kyle en fait là-dedans. Oui, oui.
Bon, alors, on va avoir encore un autre exemple de cette virtuosité collective. C'est l'arrangement de Bernd Lossky qu'il a fait sur une étude de Chopin. Et bon, il présente ça avec humour, bien sûr, mais je ne suis pas sûr qu'il ait tout à fait raison en parlant de ce qu'en penserait Chopin lui-même.
Voici un arrangement que j'ai écrit sur une étude du grand compositeur polonais Frédéric Chopin. L'étude opus 25, numéro 9. Je suis sûr qu'il n'aurait pas aimé cet arrangement, mais on le joue quand même.
C'est une musique vraiment jubilatoire.
Ah oui. C'est le terme qu'il faut employer.
Oui, absolument. Hein. Oui. Ah, c'est formidable. Moi, je ne suis pas sûr que... Je ne veux pas faire parler les morts, hein, mais puis je ne sais pas si Chopin avait de l'humour, mais moi, je ne suis pas sûr qu'il n'aurait pas aimé ça.
Oui, parce que c'est la belle musique.
C'est de la belle musique, quand même. Hein.
Non, non, il aurait aimé, forcément. Bon. On peut le faire parler, il aurait aimé.
Espérons. En tout cas, c'est vraiment épatant. Chris Hopkins présente le morceau que nous allons entendre sous le nom de Black Stick Blues. En fait, ce n'est pas tout à fait Black Stick Blues, le vrai titre. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont ajouté blues, parce que ça, à mon avis, ça n'a rien d'un blues. Et c'est le titre de Béchette, puisque c'est une composition très belle et très originale de Sidney Béchette. Ça s'appelle Black Stick, tout simplement. L'interprétation comprend un long solo d'Olivier Meves et vraiment, on remarque que c'est vraiment un batteur épatant et surtout, il a une qualité de son remarquable qui fait penser un peu aux batteurs Nouvelle-Orléans, genre Zouti, Singleton, Baby Dots et surtout à Sidney Catlett. C'est vraiment, un batteur remarquable.
Excellent batteur. Oui.
Alors, écoutons donc Black Stick.
Here's a piece... which was written by the great Sidney Bechet. And it's a perfect dancing tempo, so please feel free to come to the stage and dance. This is called the Black Stick Blues. This was written especially for the clarinet.
Thank you.
Nous allons écouter maintenant une interprétation dans un climat tout à fait différent, puisque c'est un solo de piano de Berntowski que je trouve magnifique, vraiment magnifique. C'est sur Over the Rainbow, et ce qu'il y a de superbe, c'est ce toucher délicat de Bernt qui rappelle presque la délicatesse du toucher d'un Fats Waller. Et à côté de ça, il y a l'invention harmonique d'un Art Tatum, et ça donne un résultat magnifique. J'aime beaucoup.
Maintenant, il est temps pour un solo au piano. Berntowski.
Quel musicien.
Ah oui, c'est un musicien formidable, ça. Il a la musicalité jusqu'au bout des doigts, c'est le cas de dire.
On est sous le charme.
Oui, c'est vrai.
Alors, Bernd est aussi un musicien plein d'humour. Hein, et vous allez voir l'humour avec lequel il présente Azzurro, une chanson à succès de Paolo Conte, qu'on n'attendrait pas dans un concert de jazz. Oui. Mais ce qui prouve bien que le jazz, ce n'est pas un thème, c'est la façon dont il est traité. Ça, c'est super. Là, on en a la démonstration. L'arrangement, d'ailleurs, en fait une petite merveille d'humour et de swing. À noter l'efficacité de la pompe de Bernd Plotsky et son court mais superbe solo. On remarque aussi la belle qualité de batterie, encore une fois, d'Olivier Meuves.
Ce prochain morceau a été écrit par Paolo Conte et puis a été chanté par Adriano Celentano. Et puis, nous, on l'a rendu célèbre dans le monde entier. Je parle de Azzurro. Thank you.
cette fin est extraordinaire. Hein. Ah, ouais. Cet Olivier, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Alors, Bernd Klotzky, avec son humour habituel encore, nous présente un Wildcat Blues, qui est une composition que Fats Waller a faite dans les années 1920. Vous allez voir la petite touche d'humour avec laquelle il le présente. Et c'est encore un bel arrangement de Chris Hopkins.
Maintenant, un arrangement de Chris aussi, sur un thème de Thomas Fats Waller. Puis c'est un très vieux morceau, The Wildcat Blues. On s'est dit, on va le moderniser. On le joue maintenant dans le style des années 30. Encore un arrangement dans l'esprit de John Kirby.
Et nous terminerons donc la présentation de ce concert avec une interprétation qui a été jouée en rappel et qui est une version de Royal Garden Blues, encore une fois à la façon Kirby.
We have many, many encores for you left. If you take home a CD, they're going to be very heavy to carry home tomorrow, so you have a second chance.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'avec cette émission, on a vraiment eu les deux bouts du jazz, hein, depuis le primitif jusqu'au plus sophistiqué. Voilà.
En tout cas, bravo pour ce choix, Claude Alain, parce que c'était un très, très chouette concert encore qui s'est passé.
Et le dernier que Jean-Marie a entendu, je crois. Ouais. Voilà. Il est parti sur de bonnes bases, là.
Voilà, absolument. Voilà. Bon, eh bien, écoute...
On se dit à la semaine prochaine, quand même.
On va se dire quand même.
Même si je ne suis pas là dans le studio, je vous écouterai.
D'accord.
J'espère, Claude-Alain.
Je pense qu'on te verra, toi, Alain, la semaine prochaine.
Je crois que je reviendrai.
Bon, voilà. On dit bonjour à Martine aussi.
On va lui faire une grosse bise.
On lui fait tous une grosse bise. Ouais,
ouais, grosse bise à Martine.
On l'a mis gentiment en boîte, mais surtout on veut qu'elle revienne.
À bientôt, Martine.